Bonjour à tous, nous sommes très heureux, Florian et moi-même, Clémence, chargée de projet à la Fabrique Emploi et Territoire, de vous proposer cette émission spéciale à l'occasion d'une semaine consacrée au secteur des métiers de l'autonomie. Cette semaine intitulée « Et si prendre soin des autres était fait pour vous ?», organisée par la Fabrique Emploi et Territoire avec l'appui du Conseil départemental de la Nièvre, est l'occasion de donner la parole à des professionnels du secteur et de la formation pour en savoir plus sur les métiers de l'autonomie, ces métiers porteurs de sens dans notre société. Pour débuter l'émission, j'accueille Martine Hack, chargée de recrutement au village d'enfants Pierre et Paul Souris. Bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous tout d'abord nous présenter le village d'enfants et vos missions dans cette structure ?
Oui, alors le village d'enfants est situé à Châtillon-en-Bazois. Il a été créé il y a 50 ans et depuis 2017, nous faisons partie du groupe SOS Jeunesse. Donc nous accueillons et nous accompagnons des enfants qui sont placés chez nous par décision judiciaire et nous les aidons à vivre le plus normalement possible dans un cadre familial. Et donc moi, pour ma part, je suis chargée de recrutement, c'est-à-dire que je vais présenter le village et nos différents métiers au centre de formation, aux écoles de la Nièvre et puis également dans les départements limitrophes.
Très bien, merci. Alors, quels sont les différents métiers représentés au sein du village d'enfants et qui sont nécessaires au bon fonctionnement en fait de la structure ?
Donc en fait, nous prenons en charge les enfants en équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est-à-dire que nous avons des animateurs scolaires, des animateurs sportifs, des médiateurs, des psychologues, évidemment des équipes d'éducateurs spécialisés et des éducateurs familiaux comme Vincent et Fiona qui sont également présents aujourd'hui.
Alors comme vous venez de le dire, nous avons donc la chance d'avoir deux éducateurs familiaux qui travaillent au village d'enfants, Vincent et Fiona, qui vont nous en dire plus sur leur métier. Bonjour à vous deux et merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour. Bonjour.
Alors pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qui vous a mené vers ce métier ?
Alors, tout d'abord, personnellement, j'étais animateur au centre social du Bazois pendant mon bac pro. Donc, j'ai enchaîné sur d'autres études. Et je suis intervenu au village d'enfants en tant qu'animateur pour commencer.
D'accord.
Et par la suite, j'ai remplacé des collègues éducateurs sur des pavillons. Et donc, naturellement, à la fin de mes études, je suis revenu intégrer le village. Et donc, ça fait maintenant 5 ans que je suis éducateur familial au village d'enfants.
Très bien, merci Vincent. En quoi consiste votre travail au quotidien ?
Alors tout d'abord, nous accompagnons les enfants dans la vie de tous les jours, comme par exemple les aider dans leur scolarité, les éduquer, être présents un maximum pour leurs rendez-vous, leur préparer de bons petits plats notamment. Mais nous sommes aussi amenés à beaucoup communiquer puisque nous travaillons en équipe.
D'accord. Alors de quelle formation vous avez bénéficié ?
Moi j'ai un bac pro service aux personnes et au territoire et j'ai également un BAFA. Durant 5 dernières années, j'ai suivi pas mal de formations en interne avec le village d'enfants, notamment sur la bienveillance, la bientraitance et tout ce qui est cadre juridique et légal par rapport à la protection de l'enfance pour amener la meilleure prise en charge possible auprès des enfants.
Très bien, merci. Alors qu'est-ce qui vous plaît en fait dans votre métier, Fiona ?
Alors, je suis totalement franche avec vous. Tout me plaît en fait dans ce métier. J'adore ce que je fais, vraiment. J'aime pouvoir accompagner les enfants au quotidien, pouvoir leur donner de la sécurité, de la stabilité et en fait de les soutenir à tout moment. Aujourd'hui, je ne me vois pas exercer un autre métier.
Très bien, merci. Quelles sont les qualités à avoir selon vous pour exercer votre métier ?
Alors, je dirais que la première des qualités, c'est vraiment d'aimer le contact humain, plus particulièrement les enfants, bien sûr. Et puis, je dirais être organisé et savoir se remettre en question, vraiment.
Ok, donc c'est vous posez des questions quotidiennement aussi par rapport à votre...
Toujours, toujours. Dans toutes les situations, on se remet en question à chaque fois, en fait. Voilà.
Que diriez-vous à des personnes qui souhaiteraient travailler comme vous en tant qu'éducateurs familiaux ? Que leur conseillerez-vous ?
Eh bien, s'ils se reconnaissent un peu dans tout ce qu'on vient de dire, eh bien, qu'ils sautent le pas, qu'ils n'hésitent pas à postuler et qu'on les accueillera avec grand plaisir sur le village et on les aidera à se former et voilà.
Très bien, merci beaucoup Vincent et Fiona d'avoir répondu à nos questions. Je me tourne de nouveau vers vous, Martine Hack, donc chargée de recrutement au village d'enfants Pierre et Paul Souris. Donc, on vient d'entendre les témoignages de Vincent et Fiona qui sont éducateurs familiaux. Est-ce que vous recrutez actuellement des professionnels sur ces postes ?
Oui, tout à fait. En fait, actuellement, ben, on est à la recherche de 6 éducateurs familiaux parce qu'on doit accueillir de nouveaux enfants confiés par l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, on recherche 6 éducateurs. Donc voilà, donc, si vous êtes vous êtes retrouvé un petit peu dans ce qu'a dit mes collègues Fiona et Vincent, si vous souhaitez donner du sens à votre action, eh ben, il ne faut pas hésiter à postuler chez nous et puis donc nous attendons votre candidature.
Alors, est-ce que vous recrutez également sur d'autres postes métiers et quelles sont les compétences qualités que demandez ?
Ben aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je recrute que des éducateurs familiaux parce que voilà, j'ai recruté d'autres fonctions jusqu'à présent. Et là, maintenant, les postes sur lesquels je recherche des personnes, c'est vraiment éducateurs familiaux. Donc, les qualités, ça, c'est surtout d'aimer aider les autres, hein, comme disait Fiona, et puis d'être disponible parce qu'on travaille les nuits, on travaille aussi plusieurs jours d'affilée. Donc voilà, c'est vraiment la disponibilité. Et puis être empathique et voilà aimer aider les autres et travailler en équipe, c'est important.
Alors Vincent en a parlé, mais juste pour confirmer, vous formez également en interne, hein, d'après ce qu'on a entendu.
Oui, exactement, tout à fait. On propose différents types de formations en interne, hein, la bientraitance, la protection de l'enfance, sur la sexualité des enfants, comment prendre en charge les enfants. Voilà, il y a plusieurs types de formations qu'on propose et surtout on peut accompagner les équipes à se former en VAE. Pour être moniteur éducateur ou alors éduc spécialisé. Donc c'est vraiment un principe qui nous tient à cœur de former nos équipes au quotidien, avec le village d'enfants, il y a des formations qui sont proposées.
Très bien. Alors si des personnes souhaitent prendre contact avec vous pour éventuellement postuler ou simplement échanger sur les opportunités d'emploi au village d'enfants, comment prendre contact avec vous ?
C'est très simple. Je vais vous donner le numéro de téléphone du village d'enfants. Et puis, il me demande, Martin Hack, donc le téléphone, c'est 03 86 84 19 19, 03 86 84 19 19. Ou alors, je vais vous donner mon adresse mail, martin.hack, alors A-C-K-E, @groupe-6sos.org. martin.hack@groupe-6sos.org. C'est un petit peu compliqué, mais le numéro de téléphone, ça va très bien.
Très bien. Eh bien, voilà. Merci beaucoup à vous trois, donc Martin Hack, chargé de recrutement, et Vincent et Fiona, éducateurs familiaux au village d'enfants, Pierre et Paul Souris à Châtillon-Bazois. Merci beaucoup d'être venus au micro de cette émission spéciale.
Vous êtes toujours sur l'émission sur les métiers d'autonomie proposée par la Fabrique Emploi et Territoire. On accueille tout de suite Marion Richard, monitrice éducatrice à l'Institut médico-éducatif Les Graviers de Varennes-Vauzelles, portée par la Fédération des œuvres laïques de la Nièvre. Bonjour Marion.
Bonjour.
Alors du coup, on va partir sur le parcours de formation. Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir monitrice éducatrice, Marion ?
Alors du coup, moi j'ai fait quelques années en fac de psychologie, donc j'avais un parcours à choisir et j'ai choisi le parcours psychologie sociale. Donc c'est là que j'ai découvert le métier de TISF que j'ai obtenu et que j'ai exercé pendant plus de 2 ans. Cependant, le métier ne me correspondait pas trop, je ressentais beaucoup de solitude professionnelle. Donc j'ai cherché un autre travail, j'ai effectué 1 an de remplacement à l'IME.
D'accord.
Et j'ai eu la chance de pouvoir passer le diplôme de moniteur éducateur en apprentissage à l'internat où je travaille actuellement.
Et du coup, depuis quand exercez-vous ce métier ?
Donc, je travaille à l'IME depuis 2018. J'ai retrouvé ce qui me manquait ailleurs, le travail d'équipe, l'accompagnement des enfants au quotidien.
D'accord. Et c'est vraiment ça qui vous a donné envie de faire ce métier ?
C'est ça, tout à fait.
L'approche des enfants.
Okay. Exactement.
Et du coup, est-ce que vous avez une journée type de travail ?
Alors, en soi, les journées, elles sont toutes différentes. Mais on travaille en roulement de 2 équipes, donc une équipe du matin, une équipe du soir. L'équipe du matin, elle prend en charge les enfants avant d'aller à l'école. Et ensuite, on a des temps d'écrit, de contact téléphonique avec les partenaires ou les familles. On en profite aussi pour préparer des activités, des projets éducatifs. Et l'équipe du soir, elle prend en charge, elle, les enfants au retour de l'école. Donc, à ce moment-là, il y a tout un travail autour du quotidien, de l'autonomie.
Et pour vous, quelles sont vos plus belles réussites dans votre travail ?
Alors, une très belle réussite pour nous, ça a été l'année dernière. En équipe, on a organisé un séjour au bord de la mer avec les enfants.
D'accord.
Les trois quarts des enfants, ils avaient jamais vu la mer, en fait.
Okay.
Donc, voir leurs yeux qui pétillaient, leur grand sourire, pour nous, ça a été vraiment une très, très belle réussite.
Super. Et donc, pour vous, quelles sont les qualités indispensables pour exercer dans ce métier ?
Alors pour moi personnellement, les qualités indispensables, c'est l'écoute, l'observation, se questionner régulièrement sur le pourquoi on le fait, savoir se remettre en question aussi et savoir s'adapter parce que chaque enfant est différent et progresse à son rythme. Voilà.
Et si certains de nos auditeurs veulent se lancer dans le métier de monitrice éducatrice,
ouais,
que leur conseillerez-vous ?
Alors, d'aller se renseigner dans les différents centres de formation ou auprès des professionnels de terrain, ne pas hésiter à aller les solliciter, se renseigner aussi de l'actualité, parce
okay.
que c'est tout le temps en mouvement, et voilà, grosso modo.
D'accord, bah super Marion, bah merci beaucoup.
On continue cette émission spéciale avec un nouvel intervenant dans l'émission, Madame Élodie Laurent, aide-soignante au service de soins infirmiers à domicile, donc SIAD de Château-Chinon. Bonjour.
Bonjour.
Alors, en quoi consiste votre métier d'aide-soignante ?
Alors, mon métier consiste à accompagner mes patients dans leurs actes de la vie quotidienne, entre autres les aider à maintenir une bonne hygiène corporelle ainsi que leur autonomie. On les stimule, on les aide à récupérer l'autonomie le plus possible quand cela est possible, bien sûr, et aussi d'autres. Dans d'autres circonstances, pour d'autres patients, par exemple, en fin de vie.
Hein. D'accord.
On les accompagne au mieux dans la dignité, dans le respect de leur volonté et de leurs besoins. Donc, c'est très important aussi de pouvoir rester à domicile jusqu'au bout. C'est vraiment très important. On a un rôle également d'accompagnement aux aidants, leurs proches et leurs familles. Voilà, on peut les guider au mieux vers les aides qui pourraient les soulager physiquement et psychologiquement.
Donc, je l'ai dit, vous êtes situé à Château-Chinon, mais quel est votre territoire d'intervention ?
Alors, le CERD, il intervient sur tout le canton de Château-Chinon. On va jusqu'à Glu-Anglaine, qui
D'accord.
fait encore partie du 58, et à l'opposé, on va jusqu'à Montreuillon. Puis tous les villages entre ces deux opposés, c'est assez étendu quand même.
Donc c'est vraiment le milieu rural, vous intervenez j'imagine dans toutes sortes de villages du Morvan.
Ah oui, tout à fait, même des hameaux vraiment assez isolés.
D'accord, très bien. Alors quelle formation vous avez bénéficié en fait pour devenir aide-soignante ?
Alors j'ai suivi une formation à l'IFAS de Château-Chinon, l'Institut de formation d'aide-soignants. Une formation de 10 mois où on étudie différents modules en théorie et on effectue également, en lien avec ces modules, des stages en alternance. Voilà, différents stages sur plusieurs semaines, en vue de l'obtention du DEAS, qui est le diplôme d'état d'aide-soignant.
Très bien, merci. Alors, avez-vous une anecdote sur l'une de vos interventions ?
Moi, j'aime beaucoup mon métier à domicile. C'est vrai que le contact avec les patients est vraiment différent dans des patients qu'on peut en structure, en EHPAD ou autre. C'est vrai qu'ils sont dans leur environnement, ils ont leurs repères. On va dire qu'ils ont un peu plus de morale et plus d'entrain, on va dire, à vouloir récupérer leur autonomie quand c'est possible. Moi, par exemple, l'anecdote que je retiens, quand j'ai commencé... J'avais vraiment pas énormément le sens de l'orientation. Et c'est vrai que dans nos campagnes, où, comme je vous disais tout à l'heure, où on a des lieux dits pas toujours indiqués et bien isolés, moi, finalement, grâce à mon métier d'aide-soignante à domicile, j'ai pu... Je me suis améliorée. j'arrive mieux à me repérer. Après, des petites anecdotes... d'une petite histoire sympathique. Par exemple, une de mes anciennes collègues qui avait récupéré un petit chat lors de sa tournée, un petit chat qui était au bord de la route. Et en fait, elle voulait pas le laisser là. Elle s'est demandé où est-ce qu'elle pourrait l'emmener. Et finalement, le chat a fini chez la mère d'un patient. Au départ, elle était pas du tout convaincue qu'elle pourrait vivre avec ce chat qui se nomme Hercule. Et maintenant, ça fait 12 ans qu'il est là, il est toujours là. Et voilà, ces petites histoires sympathiques comme ça. Vraiment, ce côté convivial, et c'est vraiment ça qui est sympa, je trouve, dans notre métier.
Bah, merci, vous êtes une belle ambassadrice de votre métier, en tout cas, ça donne envie. Quelles sont les compétences nécessaires, selon vous, pour exercer ce métier d'aide-soignante?
Alors, la première compétence, c'est d'être empathique. Je pense qu'on peut pas faire autrement, d'avoir de l'empathie pour nos patients, pour les gens qui nous entourent. Être à l'écoute des besoins et des attentes, avoir un bon contact, bien sûr. Et savoir s'adapter à toute situation, essayer de te repérer dans des endroits.
Oui, avoir un bon sens de l'orientation, voilà, en tout cas, quand on travaille. Mais ça s'acquiert, comme vous l'avez dit.
Oui, ça s'acquiert, exactement. J'en suis la preuve vivante, voilà. Vraiment. Et c'est vrai que des fois, on peut intervenir dans des endroits.
Faut être un peu tout terrain aussi.
Exactement. Oui. Et il faut pas avoir peur de rouler sur la neige aussi.
Oui, c'est ça. Par tous les temps.
Également. Par tous les temps.
Et avez-vous envie maintenant ou peut-être pour plus tard d'évoluer dans votre métier?
Mes envies vraiment, c'est de continuer à intervenir à domicile. Pour moi, le maintien à domicile est primordial. Il se développe de plus en plus d'ailleurs. Et c'est une très bonne chose. Il arrive que j'ai des patients, nous puissions rencontrer d'autres professionnels aussi de santé, comme les infirmières, les kinés et d'autres. Et c'est vraiment toujours enrichissant d'échanger avec eux et pouvoir rester le plus longtemps possible chez soi. Vraiment, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Avec tous les services à domicile qui se mettent en place, franchement, c'est possible.
Très bien.
Et si je peux me permettre, du coup, je voulais juste vous dire que le SIAD, là où je travaille, recrute. Donc, n'hésitez pas à contacter le SIAD à Château-Chinon. Après, si je peux vous donner le numéro de téléphone.
Allez-y, bien sûr. On est dans une émission où on parle évidemment des besoins en recrutement. Donc, allez-y.
Alors, vous pouvez contacter Laura au SIAD au 03 86 85 18 66.
Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Madame Élodie Laurent. Donc, vous êtes aide-soignante au service de soins infirmiers à domicile, donc SIAD de Château-Chinon. Merci beaucoup pour votre témoignage très riche. Merci beaucoup.
Merci en tout cas de nous faire connaître et de prendre le temps de parler de ces métiers tellement importants. C'est vraiment gentil.
Pas de souci. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous.
Au revoir. Merci.
On fait une courte pause et on se retrouve tout à l'heure pour aborder la formation dans notre émission spéciale avec deux organismes de formation, le Greta 58 et le CFPPA du Morvan. When the night has come and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Thank you.
BAC FM 106.1.
De retour sur notre émission sur les métiers de l'autonomie, on continue pour aborder la partie formation. Pour en parler, j'accueille tout d'abord Julie Gabert, conseillère en formation continue au Greta 58. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le Greta 58?
Oui, alors le Greta 58, ça signifie groupement d'établissements. Donc, on est l'organisme de formation pour adultes de l'éducation nationale. Nous dispensons des formations dans quasi tous les secteurs d'activité, donc l'hôtellerie, la restauration, des formations générales, des remises à niveau, le secteur de la langue, de l'insertion, tertiaire, industrie, bâtiment, hygiène, bilan de compétences aussi, des VAE et bien sûr le secteur sanitaire et social, et j'en ai peut-être oublié, mais on balaye quasiment tous les secteurs. Nous rayonnons sur l'ensemble du territoire nivernais et notre volonté, c'est d'aller au plus près des entreprises du territoire tout en répondant au mieux à leurs besoins. Nous dispensons donc des formations aussi bien qualifiantes, diplômantes ou modulaires, et concevons également beaucoup de formations sur mesure. Et nous mettons en œuvre des actions aussi bien à destination des salariés que des entreprises, qu'également des demandeurs d'emploi ou des demandes individuelles que on peut recevoir.
D'accord, merci Julie pour toutes ces explications. Que propose le Greta 58 comme formation dans le secteur médico-social ?
Alors, nous proposons des formations qui visent les métiers dans le secteur de l'accompagnement aussi bien des personnes âgées que les personnes en situation de handicap ou encore les jeunes enfants. Pour les formations diplômantes, par exemple, nous proposons le titre professionnel d'assistante vie aux familles, avec ou sans la certification spécialisation handicap. Le diplôme d'État d'aide-soignant en lien avec l'IFAS de Château-Chinon, le CAP accompagnant éducatif petite enfance, la formation d'assistant en soins gérontologie et des accompagnements VAE, validation des acquis de l'expérience. Nous dispensons également dans le secteur sanitaire et social des formations courtes qui sont transversales ou thématiques comme la communication professionnelle, l'importance du travail d'équipe, des choses plus thématiques sur la sensibilisation à la psychopathologie ou psychogérontologie, et des modules de sécurité comme le SST, sauveteur-secourisme du travail, et bien d'autres encore. Et on met en œuvre désormais aussi une nouvelle formation courte, certifiante, qui n'existait pas jusqu'alors sur notre territoire, donc j'en profite pour pouvoir en parler, qui concerne de plus en plus de professionnels, qui est l'AFGSU, donc qui est une certification très courte, hein, de 21 heures, sur les formations gestes et soins d'urgence, qui est devenue obligatoire au sein de certains nombres de formations du secteur sanitaire et social l'année dernière.
D'accord, bah très bien, merci pour toutes ces informations. Je sais aussi que vous portez une plateforme, la plateforme Ed&Co. Quel est l'objectif de cette plateforme ?
Alors, cette plateforme Ed&Co vise des métiers dans le secteur service à la personne et à former des demandeurs d'emploi et des salariés à ces métiers pour accompagner les publics plus ou moins dépendants. Nous sommes trois partenaires, trois organismes de formation qui œuvrent au sein de cette plateforme. On a mis en commun nos compétences, donc le Greta, l'AFPA et l'INFA. Nos compétences sont mises en commun, mais également nos forces pour dispenser cette plateforme. Donc, elle est expérimentale, elle est à l'initiative donc du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté avec 4 OPCO, donc qui sont les organismes collecteurs et financeurs qui regroupent un certain nombre d'entreprises du secteur, alors qui couvrent quasiment tous les secteurs, donc Uniformation, OPCO EP, OPCO Santé et la NFH. Et l'idée, c'est de pouvoir suivre des formations qui sont certifiantes, par exemple, hein, comme le titre pro d'ADVF dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou de suivre des modules professionnalisant, car ce dispositif il comprend 36 modules différents. Donc, d'accord, on est dans l'idée de pouvoir suivre, dans l'idéal, un peu des formations à la carte et sur mesure en fonction des profils et des besoins des gens.
Ok. Et du coup, qui peut s'inscrire sur cette fameuse plateforme ?
Alors, pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi et qui ont un projet qui a du sens et un projet validé, ils peuvent s'inscrire sur cette plateforme via leur conseiller, via les prescripteurs. Alors, en général, c'est le conseiller Pôle emploi, mission locale ou structure d'insertion. On on organise des réunions d'information collective, notamment pour les demandeurs d'emploi, pour leur expliquer en quoi consiste cette plateforme et donc retourner auprès de leurs conseillers pour avoir une prescription. Et sinon, ça peut être toute entreprise ou salarié qui adhère aux OPCO, donc aux financeurs dont je vous ai parlé, donc les quatre, Uniformation, OPCO Santé, OPCO EP et ANFH.
Ok, super. Bah, merci Julie. Et du coup, si je suis un auditeur qui est à la recherche de ce type de formation, comment pourrais-je procéder ?
Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que cette formation, elle se déroule sur Caen, mais elle est accessible à toute personne donc du territoire, même si on n'habite pas sur le secteur de Caen. Donc, si vous êtes demandeur d'emploi, on a une réunion d'information collective pour transmettre, répondre à toutes les questions et présenter notre plateforme qui est organisée donc le 6 octobre à 9h30, donc dans nos locaux à Caen. Ça se fait sur inscription, donc moi je conseille vivement de passer via le conseiller Pôle emploi pour pouvoir vous inscrire, ou alors vous appelez sinon le CRETA, comme ça on vous orientera. Et si vous avez la moindre interrogation sur cette plateforme ou demande de renseignements pour pousser un petit peu plus loin la connaissance de la plateforme et faire le lien avec vos besoins, c'est très simple, vous contactez le CRETA 58, vous demandez à me parler, donc Julie Gabert. Donc pour nous joindre, c'est le 03 86 59 74 59. On échangera ensemble et puis je vous orienterai en fonction.
Je vous remercie Julie Gabert pour cette intervention dans notre émission spéciale Métier de l'autonomie sur BAC FM.
Merci pour l'invitation.
On poursuit cette émission spéciale pour parler de deux BPJEPS, l'un dans le domaine de l'animation sociale et l'autre dans le domaine des loisirs tout public, proposé par le CFPPA du Morvan. Pour parler donc de ces BPJEPS, j'accueille Pascal Roussel, coordinateur au pôle animation du CFPPA du Morvan. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter le CFPPA du Morvan et vos missions ?
Alors, donc le CFPPA du Morvan, centre de formation et de promotion agricole, est rattaché à un établissement public d'enseignement agricole qui comporte donc un lycée d'enseignement initial. Le CFPPA donc est destiné principalement aux formations pour adultes et des exploitations à vocation essentiellement aquacole. Donc, on va avoir au sein de notre établissement différentes missions qui sont actées. Donc là, les principaux axes sur lesquels on va travailler, c'est le côté agricole avec un BPREA, un BTS axe, c'est-à-dire action de conduite d'exploitation agricole. On va avoir également un CAPA, donc un CAP agricole pour des jeunes en orientation à vocation agricole. Ensuite, on va avoir tout le domaine donc de l'animation avec des BPJEPS. Également le certificat complémentaire de direction d'accueil collectif pour mineurs, et puis des actions sur tout ce qui va être l'insertion avec un dispositif en amont de la qualification, un DFL, c'est-à-dire un dispositif français langue étrangère, et puis des formations courtes qui sont dispensées soit sur le niveau du SST, c'est le secteur sécurité du travail. On va également avoir un CPTROV, donc ça c'est pour les personnes qui souhaitent pouvoir transporter professionnellement des animaux vivants. Donc voilà, un petit peu sur les secteurs sur lesquels se déclinent nos actions.
Très bien. Et vos missions en fait au CFPPA, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous faites en fait en tant que coordinateur ?
Alors moi j'agis essentiellement sur le domaine, sur le pôle animation, et donc en charge de la coordination du BPJEPS animation sociale, qui lui s'adresse principalement à des personnes qui souhaitent travailler auprès de publics dits fragilisés ou en difficulté, et un BPJEPS loisirs tout public, qui lui est plus sur l'accueil collectif de mineurs en termes d'orientation ou la balle, et ce fameux certificat complémentaire donc que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'équivalent, si vous voulez, en titre professionnel de ce que les gens connaissent sous le DAFD.
Très bien. Alors BPJEPS, alors juste pour rappeler, donc c'est brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Donc comme vous l'avez dit, vous proposez un BPJEPS animation sociale. Alors à qui ce BPJEPS s'adresse ?
Alors il s'adresse pour le BPJEPS animation sociale. On a une formation qui est conventionnée par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, donc à ce titre pouvant accueillir des demandeurs d'emploi qui vont pouvoir bénéficier d'une part de la prise en charge de la formation et d'accès à une rémunération, et également à des apprentis ou des salariés dans le cadre de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation.
Très bien. Alors, les personnes titulaires de ce BPJEPS, donc animation sociale, peuvent être amenées à travailler dans quels environnements de travail et auprès de quel public ?
Alors, c'est assez large comme panel professionnel, puisque ça a vocation à être une possibilité professionnelle dite transversale. On va tout d'abord avoir les publics fragiles auprès de l'enfant jeunesse, donc éventuellement tout ce qui va être les publics relevant de handicap ou de difficultés. On va avoir également les publics atteints de troubles psychiques, par exemple dans le cadre des GEM, des groupes d'entraide mutuelle qui se mettent en place sur le département. On va avoir également les centres d'accueil pour mineurs qui peuvent relever de ça. On va avoir des personnes qui vont travailler aussi sur le secteur médico-social, puisque le BPJEPS Animation Sociale est inscrit aussi dans la Convention 66 du secteur médico-social et à ce titre donc est reconnu à même niveau d'entrée de poste qu'un moniteur éducateur, par exemple. Et puis on va avoir également tout ce qui va être destiné auprès des publics vieillissants, donc que ce soit en maison de retraite, en foyer résidence, en EHPAD, en ARPA, etc.
Très bien. Alors, concernant le BPJEPS Loisirs tout public, ce diplôme d'État mène vers quel métier ?
Alors, lui, il est beaucoup plus axé sur cette notion de loisir, principalement auprès de publics accueillis dans le cadre des accueils collectifs pour mineurs, donc c'est-à-dire principalement tout ce qui recèle de l'animation accueil de loisirs sans hébergement, les centres sociaux, par exemple. On va avoir aussi, au niveau de centres sociaux, des actions qui peuvent être menées auprès des familles, etc. Voilà, c'est plus sur ce domaine-là qu'il va ouvrir.
Et où vont se dérouler ces deux formations et quand débutent-elles ?
Alors, les formations, la formation BPJEPS Animation Sociale, elle est située à Nevers, au CFPPA de Chaluis, avec lequel nous sommes associés pour accueillir le groupe de stagiaires. Et la formation BPJEPS Loisirs tout public, elle est dédoublée, une partie à Chaluis et une partie au CFPPA de Château-Chinon, sachant qu'on a 4 UC qui composent ces formations et que les deux premières, UC1 et UC2, sont un tronc commun à toutes les formations BPJEPS Animation. Donc, on rassemble les deux groupes en un même lieu pour cette formation.
Ok, très bien, merci. Et alors, pour quelle durée, en fait ? Combien durent les formations ?
Alors, la formation BPJEPS Animation Sociale est sur un volume de 1239 heures exactement. Ces deux formations sont en alternance, c'est-à-dire qu'il y a à peu près le même temps en centre de formation qu'en lieu d'application, donc en structure professionnelle.
Alors, si nous avons...
plus long, 1435 heures à peu près.
D'accord. Alors, si des auditeurs sont intéressés pour en savoir plus sur vos formations et puis aussi sur les deux BPJEPS dont vous venez de nous parler, comment doivent-ils procéder ?
Alors, ils peuvent nous contacter directement au CFPPA au 03 86 79 49 30. Ils peuvent consulter le site également du CFPPA, c'est Morvan Formation pluriel tout attaché .com. Donc où là, tout ce que je viens d'expliquer un petit peu sur les formations est décliné, présenté avec aussi des petites cartouches de présentation dans chacun des pôles de formation et des contenus. Et puis me contacter éventuellement au niveau du téléphone professionnel. Sur un portable, c'est le 06 17 47 61 57.
Très bien, ben, merci beaucoup. Donc, Pascal Roussel, vous êtes coordinateur au pôle animation du CFPPA du Morvan. Donc, merci d'être venu au micro de BAC FM pour nous parler de ces deux formations présentes sur notre territoire. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de l'émission pour en savoir plus sur la semaine du 3 au 7 octobre et si prendre soin des autres était fait pour vous, consacré au secteur des métiers de l'autonomie. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the
everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. 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 Everybody's gotta learn sometime.
Back FM, la radio qui percute.
On poursuit l'émission pour aborder le contexte et les orientations et actions en cours ou à venir sur notre département pour favoriser l'autonomie. Pour en parler, j'accueille tout d'abord Marianne Girard, directrice de l'autonomie au Conseil départemental de la Nièvre. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le Conseil départemental met en œuvre un schéma de l'autonomie couvrant la période 2021-2025. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer pourquoi le Conseil départemental de la Nièvre s'empare du sujet de l'autonomie des personnes âgées et handicapées et quels sont les enjeux sur notre département ?
Alors, la question de l'autonomie sur le département est une question majeure puisque c'est une politique dont le département a la compétence et donc est en charge de déployer la politique sur son territoire. C'est une politique très importante pour le département puisqu'elle représente une part majeure de plus de 80 millions d'euros sur chaque année. Et le schéma d'autonomie 2021-2025 porte ses engagements et les enjeux de ce schéma sont les suivants. Il y a quatre axes en fait dans ce schéma. Il y a d'abord encourager l'accès à la citoyenneté, avec pour but de favoriser la prévention, c'est-à-dire de permettre une information et une coordination qui sont plus efficientes, plus efficaces sur le territoire. Le deuxième axe de ce schéma, c'est de porter des solutions innovantes et de proximité pour promouvoir le soutien de nos personnes âgées, de nos personnes handicapées à leur domicile. Le troisième axe de ce schéma, c'est de pouvoir aussi promouvoir le bien-être et la qualité de vie de nos adultes, des adultes vieillissants de la Nièvre et des personnes handicapées de la Nièvre dans les établissements comme des EHPAD, des foyers de vie, des foyers d'accueil médicalisés, etc., qui sont des établissements qui reçoivent ce public qui ne peut plus rester à domicile. Et bien sûr, l'ensemble de ces actes-là, de ces axes-là, sont décidés et sont pilotés à la lumière de la nécessité d'intégrer le changement climatique dans nos réflexions et encore plus depuis cette année avec l'accélération des enjeux d'inflation et de coûts de l'énergie qui nous obligeront dès l'année prochaine à inventer beaucoup de choses autour des économies d'énergie pour rendre nos établissements beaucoup plus économes et beaucoup plus sobres en énergie.
Très bien, merci beaucoup. Donc, on a donc évoqué donc ce schéma de l'autonomie qui propose la mise en place d'actions concrètes en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits exemples concrets d'actions ?
Alors, on a pour un objectif très concrètement, par exemple, sur le soutien à domicile, de pouvoir proposer un accompagnement meilleur pour les personnes qui ont besoin d'équiper leur logement, de s'équiper d'aides techniques qui leur permettent de continuer à vivre à domicile, comme des éléments qui permettent finalement de pouvoir rester chez soi avec une douche adaptée, avec des petits outils qui permettent de s'habiller tout seul, etc. Et de pouvoir vraiment porter ce genre d'aides techniques, de les financer, d'en favoriser le financement. Et ce qui est important aussi sur le domicile, c'est de favoriser le répit des aidants, parce que les aidants sont souvent mis à forte contribution et s'épuisent très très vite. Et c'est très important pour nous de pouvoir être à leur côté pour leur permettre d'avoir des solutions pour qu'ils puissent souffler et qu'ils puissent tenir dans la durée. Voilà quelques exemples.
Alors, quels sont les acteurs qui vont participer à la mise en œuvre de cette stratégie départementale ?
Alors, l'ensemble des partenaires qui sont aujourd'hui autour de nous, c'est bien entendu la Fabrique Emploi et Territoire, parce que peut-être pour revenir à une des premières questions que vous avez posées, l'idée c'est vraiment qu'on a des difficultés. On est sur un département qui, en termes médical, connaît, on est dans ce qu'on appelle un désert médical, c'est-à-dire qu'il y a trop peu de professionnels du soin pour les besoins de son territoire, et c'est très difficile pour nous d'arriver à identifier, à recruter des professionnels. Et ça se traduit aussi sur nos structures qui ont de plus en plus de mal à recruter, que ce soit les services à domicile qui ont beaucoup de mal à recruter, et puis aussi nos EHPAD ou nos structures à destination des personnes en situation de handicap. Et donc, tous ces enjeux-là vont être aussi portés au travers d'actions que nous allons mener. Donc, nos partenaires, ce sont la Fabrique Emploi et Territoire, ce sont aussi les organismes gestionnaires qui sont à nos côtés pour accompagner les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Ce sont bien entendu tous les partenaires qui tournent autour de l'autonomie, mais qui sont la MDPH, qui fait partie de la direction d'autonomie, Nièvre Habitat, donc tous les opérateurs de logement social qui peuvent être aussi des partenaires très importants sur le territoire et qui sont à nos côtés pour travailler des solutions innovantes de demain.
Alors, sur notre département, le secteur de l'autonomie, on l'a vu durant l'émission, est pourvoyeur d'emplois aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir. L'enjeu est donc aujourd'hui de faire en sorte que la jeune génération s'oriente vers ces métiers. Que devrions-nous mettre en place, je veux dire collectivement, selon vous, pour susciter les vocations ? Est-ce que vous avez éventuellement des idées ?
Alors, je crois que c'est des sujets qui concernent, enfin, en tout cas sur lesquels tous les départements qui sont dans notre situation, et ils sont nombreux, se creusent le cerveau en permanence, et ça les occupe depuis pas mal de mois. Ce qu'on est en train de voir se dessiner sur notre département, c'est qu'il faut impérativement que rapidement et de façon en amont des choix d'orientation des jeunes étudiants, qu'ils puissent avoir connaissance de ces métiers-là pour qu'ils puissent avoir le choix de s'orienter vers ces métiers-là. Et ensuite, la difficulté qu'on rencontre aussi, c'est la difficulté de faire en sorte que ces jeunes, une fois qu'ils sont diplômés, restent sur le territoire. Donc il faut qu'on arrive à rendre notre département attractif pour eux et faire la différence sur la manière dont on a la capacité de les faire rester sur notre territoire. Et puis, il y a la question aussi des personnes qui sont en insertion professionnelle et qu'il va falloir qu'on essaye d'aller chercher pour les amener sur ces formations qui sont adaptées aux besoins du territoire et notamment sur l'autonomie. Et puis, il y a un pan très important qui est de créer, entre les employeurs qui sont souvent des petites associations assez isolées sur le territoire, de la synergie pour qu'ils partagent leurs problématiques, qu'ils apprennent les uns des autres et qu'ils soient plus forts ensemble, par exemple sur des créations de structures qui pourraient les aider à recruter ensemble, en tout cas d'être mieux visibles ensemble.
Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, Marianne Girard, directrice de l'autonomie au Conseil départemental de la Nièvre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans cette émission spéciale.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Je me tourne maintenant vers Sandrine Laura, chef de projet à la Fabrique Emploi et Territoire, qui va nous parler notamment d'une semaine intitulée « Et si prendre soin des autres était fait pour vous ?» qui s'organise dans la Nièvre. Bonjour Sandrine.
Bonjour Florian.
La Fabrique Emploi et Territoire travaille sur des actions de promotion des métiers depuis plusieurs années. Comment vous est venue l'idée de cette fameuse semaine des métiers de l'autonomie ?
Alors, donc, pour préciser, donc, la Fabrique, en partenariat avec le Conseil départemental de la Nièvre, donc, était à l'initiative de cette semaine, qui est organisée dans le cadre de la plateforme des métiers de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. La Fabrique est lauréate donc d'un appel à projet national qui a été déposé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et donc, elle s'est engagée depuis le début de cette année dans la promotion des métiers de l'autonomie auprès du public. Et donc, elle travaille également avec les employeurs sur l'attractivité de leurs métiers dans ce secteur et qui ont, comme on le sait, donc fait face à de nombreuses difficultés de recrutement. Donc, l'idée était d'organiser un événement pour faire un éclairage sur ces métiers qui, comme on a pu l'entendre dans le cadre des différents témoignages, mettent réellement l'humain au cœur de leur activité. Et puis donc l'objectif, c'était de permettre des rencontres autour notamment de la Semaine Bleue, qui est une semaine nationale, qui doit être l'occasion donc de promouvoir un autre regard porté sur le vieillissement et sur la vieillesse.
Et que pourra-t-on retrouver au programme de cette semaine ?
Alors donc les différentes actions et activités seront proposées donc du 3 au 7 octobre avec des rendez-vous autour de la promotion des métiers, de l'emploi et de la qualité de vie au travail. On peut citer par exemple des ateliers de découverte des métiers, des ateliers opportunités d'emploi qui seront à destination des jeunes des missions locales et de l'école de la deuxième chance, où une partie de l'équipe de la Fabrique animera ces ateliers avec différents professionnels du secteur de la formation ou des employeurs du territoire. On aura également une action spécifique pour sensibiliser à la qualité de vie au travail à destination des employeurs de Nevers. Et puis, un temps fort qui aura lieu le 3 octobre après-midi, intitulé « L'innovation nivernaise au cœur des métiers médico-sociaux ». Donc, un temps spécifique dédié aux innovations dans le secteur des métiers de la santé et des services à la personne, autour de professionnels tels que des EHPAD, des services d'aide à domicile et également le conseil départemental. Et puis, bah, évidemment, cette émission spéciale qui consacre un temps au métier de l'autonomie. Et puis pour plus d'informations, vous pourrez retrouver le programme et les modalités sur le site www.lafabriqueemploi.fr.
D'accord, très bien Sandrine, merci. Et j'aimerais revenir sur ce temps fort du lundi 3 octobre. Qu'avez-vous prévu exactement avec tous ces établissements médico-sociaux ?
Alors, on a construit un programme assez original et assez dense sur une demi-journée, donc avec l'objectif de créer un temps de rencontre qui aura lieu donc à l'hôtel Mercure à Nevers à partir de 14h. Donc l'objectif sera c'est une réelle opportunité en fait pour échanger avec des professionnels du secteur. Et donc au programme, il y aura un temps de présentation donc de la dizaine de porteurs de projets sous forme de pitch, avec des thématiques telles que l'habitat inclusif, la présentation d'un bras robotisé, un appartement tremplin pour permettre aux personnes en perte d'autonomie d'apprendre à vivre en autonomie, et puis par exemple également la télétransmission. Donc à l'issue de cette table ronde, des temps de rencontre individuels seront possibles entre des employeurs et des visiteurs. Sachant que l'idée, c'est vraiment de mettre l'innovation et les technologies qui sont aujourd'hui davantage au cœur de ces métiers pour leur donner une image un peu plus positive. Et puis de montrer que les professionnels de ce domaine doivent également s'adapter à leurs pratiques et la formation prendre en compte ces nouvelles composantes de la e-santé, des dispositifs innovants, de la télétransmission. Il y a autant d'innovations en fait, qui changent un peu le regard sur ce secteur d'activité.
Et vous parliez des visiteurs. Donc ces visiteurs... Qui seront-ils ?
Alors, on donne rendez-vous à toute personne intéressée par ce secteur, curieuse de découvrir les métiers proposés sous un angle un petit peu différent. Donc, c'est ouvert à tous, vous êtes tous bienvenus, que vous soyez jeunes, demandeurs d'emploi, professionnels.
Ok. Alors, j'aimerais revenir aussi sur cette information sensibilisation destinée aux employeurs du secteur médico-social. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette info ?
Alors donc c'est un rendez-vous qui est un premier temps de rencontre et d'information sur la qualité de vie et des conditions de travail. Donc en partenariat avec l'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail de Bourgogne-Franche-Comté, on va proposer donc une première réunion d'information donc le 4 octobre à partir de 9h30 à Nevers, qui pourra être suivie en fait pour ceux qui seront intéressés à s'intégrer dans la démarche d'un cycle d'ateliers. Et l'objectif étant en fait de leur permettre de travailler sur le recrutement et la fidélisation des collaborateurs, comprendre et s'adapter en fait aux nouvelles attentes des candidats et puis permettre de répondre aux besoins d'engagement personnel des salariés. Donc ça s'adresse à tout employeur du secteur médico-social et s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent prendre contact avec Manuel Sour, je peux donner ses coordonnées. Donc vous pourrez le joindre au 06 673 21 48 31. et également retrouver les informations sur le site de la fabrique.
Ok, super. Et pour l'ensemble du coup de la semaine d'animation, si on veut en savoir plus, où peut-on trouver toutes ces informations?
Alors tout le programme sera accessible sur le site de la fabrique, donc www.lafabriqueemploi.fr, et également sur notre page Facebook.
Super Sandrine, une semaine remplie d'actions et pleine de promesses. Merci beaucoup Sandrine Laura, chef de projet à la Fabrique Emploi et Territoire, de nous avoir apporté tous ces éclaircissements sur cette fameuse semaine de l'autonomie. Donc notre émission touche donc à sa fin. Nous tenions à remercier avec Clémence l'ensemble des intervenants d'avoir répondu présent aujourd'hui. Et nous vous donnons donc rendez-vous pour cette semaine autour des métiers de l'autonomie du 3 au 7 octobre. En commençant le 3 octobre avec le temps fort à 14h. Au revoir.